La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. On les a qualifiés d'irréductibles simplement parce qu'ils souhaitaient éditer des œuvres qui leur semblaient nécessaires. Certains étaient politisés et d'autres plutôt apolitiques, mais ils avaient en commun cette exigence de ne pas en rabattre sur leur liberté de publier. Ces figures d'éditeurs et l'univers du livre dans lequel elles ont évolué, c'est le sujet jusqu'à jeudi de la Compagnie des auteurs. Jeudi où il sera question avec Olivier Bessard-Banqui de l'évolution de l'édition française depuis 1975, date charnière à plusieurs titres, mais en particulier parce qu'elle marque un changement d'échelle dans la présence de la littérature à la télévision avec le premier numéro d'Apostrophe de Bernard Pivot. La veille, mercredi, nous aurons parlé avec Tiphaine Samoyo de l'éditeur et critique Maurice Nadeau qu'elle a bien connu au cours d'une émission enregistrée dimanche dernier au Salon Livre Paris. Enfin, hier, c'est Chantal Aubry qui nous a raconté la vie de l'éditeur Jean-Jacques Pauvert et vous pouvez bien sûr retrouver d'ores et déjà cet épisode en podcast. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter l'histoire des éditions de Minuit de Vercors à Jérôme Lindon, nous sommes avec Anne Simonin, historienne, chercheuse au CNRS, auteure notamment de deux ouvrages sur cette maison, l'un sous-titré « Le devoir d'insoumission » en 2008 chez IMEC Éditeur et l'autre intitulé « Le droit de désobéissance, les éditions de Minuit en guerre d'Algérie » publié en 2012 chez Minuit, justement. Cette maison qui fait exception puisqu'elle a débuté dans la clandestinité.
Des jeunes maisons d'édition parisiennes, la plupart, sont nées pendant la guerre, soit en Afrique, comme Charlot, soit en zone sud, comme Lafont et Segers. Mais le plus beau tour de force des intellectuels au service de la pensée française, malgré la guerre et à cause d'elle, est sans doute la création en plein Paris, sous le joug allemand, d'une maison d'édition clandestine, les éditions de Minuit. 25 ouvrages pouvaient ainsi paraître, en se moquant de la censure allemande, parmi lesquels le cahier noir de Mauriac, les anthologies des Loirs et de l'Escure, le temps mort d'Aveline, le musée Grévin d'Aragon, Le silence de la mer et La marche à l'étoile de Vercors.
Une archive de 1946. Bonjour Anne Simonin.
Bonjour.
Alors l'aventure clandestine des éditions de Minuit, elle a lieu sous l'occupation, à un moment où l'ensemble de la pensée française est cadenassée. C'est ça aussi le contexte de départ.
Absolument. Mais là, pour revenir là sur l'extrait que vous avez passé, que je trouve très intéressant, c'est l'ordre des livres. En règle générale, les éditions de Minuit sont ramenées à leur première publication clandestine, celle du Silence de la mer, en février 1942, de celui qui va signer sous le pseudonyme de Vercors, pseudonyme dont Aragon disait qu'il était le secret le mieux gardé de la guerre. Et Aragon savait de quoi il parlait en termes de secret.
Ouais, il disait aussi que c'était quand même un pseudonyme qui cachait un inconnu, et qu'à ce titre-là, c'était encore plus un secret.
Ah bah voilà, mais c'est ça, c'est-à-dire que personne ne pouvait imaginer que derrière le pseudonyme de Vercors se cachait Jean Brulaire, d'abord qui était un dessinateur, qui n'était pas un écrivain avant-guerre.
Et qui donc, était même avant cela un ingénieur.
Qui était un ingénieur, effectivement, tout à fait. Et donc, on se retrouvait dans quelque chose, on ne savait pas qui c'était. Et évidemment, Jean Paulhan, qui était le patron, en quelque sorte, de la Nouvelle Revue Française, passé sous la direction de Drieu-La Rochelle, et donc il avait abandonné pour la Nouvelle Revue Française, alimenté les bruits dans tout Paris en disant... Le silence de la mer, c'est Jean Bedel. Alors tout le monde était un peu étonné. Pourquoi Jean Bedel ? Parce que Jean Bedel avait commis un livre en 1936 qui s'appelait Monsieur Hitler, qui est d'ailleurs un très bon livre. Mais on n'a jamais su qui était Vercors pendant la guerre. Et donc c'est très étonnant qu'en 1946, le premier livre qui vienne dans la bouche du speaker que vous avez, dont vous avez passé l'extrait, soit Le Cahier Noir de Mauriac, qui effectivement d'un point de vue littéraire est la plus belle pièce littéraire du catalogue des éditions Minuit.
Ah bon, mieux que Le Silence de la Mer.
Alors, Le Silence de la Mer, en plus, comme le film qu'en a tiré Melville en 1947 a été récemment remasterisé, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est un pur chef-d'œuvre. C'est-à-dire, vous ne savez pas ce qu'est le noir et le blanc si vous n'avez pas vu Le Silence de la Mer. Donc, et Melville a pris beaucoup de risques quand il l'a passé à l'écran. Et c'est vrai que je trouve que c'est un livre, en le relisant, pour lequel j'ai de plus en plus de tendresse. Mais c'est parce que je vieillis, ça. Et dans la mesure
c'est
où il y a...
C'est bien d'avoir de plus en plus de tendresse, de toute façon.
Oui, mais c'est un très joli conte qui est très politiquement incorrect au jour d'aujourd'hui, parce que la vision gender de la jeune femme en train de coudre et de la jeune fille qui ne dit pas un mot à Werner von Ebronach, cet Allemand qui est une sorte de stéréotype de l'Allemand super correct et ultra cultivé, est en réalité, tiens, il y a une vraie tension dans ce livre. Et quand on voit le film qu'en tire Melville, avec en plus en prenant beaucoup de risques, hein, c'est son premier film, et Vercors lui dit « D'accord, si vous voulez le passer au cinéma, mais je pense que c'est pas possible. » Donc vous allez devoir passer devant un jury de résistants, vous allez faire le film, vous allez passer devant un jury de résistants, et si le jury dit « On ne peut pas visionner, on ne peut pas diffuser ça », eh bien le film ne sera pas diffusé. Et Melville est rentré dans la carrière en disant « Oui ». Et pour moi, ça, bon, j'ai une grande admiration pour Melville, mais ça signe quand même Jean-Pierre Melville un vrai rapport au cinéma et un vrai pari sur la résistance, justement.
Mais alors, le contexte, tout de même, de l'émergence des éditions de Minuit durant la guerre, c'est l'histoire des listes auto, par exemple.
Oui, alors c'est les listes auto qui sont publiées à la demande des Allemands, dès juillet 40, c'est-à-dire très très vite, pour mettre à l'index un certain nombre d'ouvrages, et en particulier tous les ouvrages écrits par des auteurs juifs.
Et aussi de langue anglaise.
Et les ouvrages de langue anglaise. Et c'est là qu'intervient Pierre de Lescure. Pierre de Lescure qui, lui aussi, est un personnage assez singulier, qui est un auteur de romans policiers chez Gallimard, mais qui est un monsieur qui est plus âgé que Vercors, et dont le fils, François Lescure, puisqu'il abandonnera volontairement la particule, s'occupe des étudiants communistes et fait donc de la résistance et sera un des organisateurs de la manifestation du 11 novembre. Et c'est à cause de sa proximité, en réalité, avec les communistes, que Pierre de Lescure va pouvoir monter avec son ami Jean Brulaire, cette chose qui est absolument inouïe, parce que à cause de la censure que font régner les Allemands, à cause des pénuries de papier contraignent très fortement le milieu d'édition, à cause du fait que pour faire un livre, vous n'êtes pas tout seul en train d'écrire un texte, vous avez besoin d'imprimeurs, vous avez besoin de brochures, vous avez besoin de distributeurs. Donc normalement, le circuit des éditions de Minuit aurait dû être démantelé par la Gestapo, parce que ce n'étaient pas des gens non plus qui faisaient très attention. Et les Allemands, à mon avis, ne vont pas prendre ça du tout au sérieux. Or, quand Le Silence de la Mer paraît, c'est-à-dire le 20 février 1942, tout le monde est totalement bluffé. D'abord parce que c'est un livre d'une très grande qualité typographique. Et la qualité du support est quelque chose qui va tout de suite époustoufler. Alors que, bizarrement, les stocks de papier de luxe se trouvent plus facilement à Paris que des stocks de papier ordinaire. Ensuite, c'est un livre dont on ne connaît pas l'auteur. Donc on a l'impression, avant même le Maquis du Vercors, que c'est vraiment la France littéraire occupée qui parle. Et c'est la France version gaulienne, version princesse des contes, en quelque sorte, qui se réveille et qui donne à la France libre, qui va tout de suite voir l'intérêt de la chose d'un point de vue politique, une stratégie. C'est-à-dire, on va dire aux Français, on vous demande pas d'être super-héroïque, de monter des attentats, surtout pas. Parce que dans le cadre de Paris occupé, ça signifie des répressions extrêmement sévères sur les populations civiles. On vous demande juste de vous taire.
Combien d'exemplaires alors du Silence de la Mer ?
Alors ça, c'est une chose qu'on sait mal. Il y a à peu près 400 exemplaires qui ont été tirés par Houdeville sur une petite presse qui lui servait à imprimer des cartes de visite, donc page à page. et la moitié du tirage va être perdue. Ils vont essayer de transférer le tirage en zone occupée, donc c'est-à-dire en zone sud, et le tirage va s'égarer. Ce qui veut dire que la première édition du Silence de la mer est une édition mais rarissime, parce qu'il y a 200 exemplaires qui ont à peu près survécu, et qui a survécu également une chose extrêmement rare, qui est Madame de la Panouse a dactylographié le texte pour Madame de la Panouse, qui était très liée avec le professeur Robert Debray, a dactylographié le texte pour aider à sa diffusion dans le milieu des intellectuels français. Et cet exemplaire se trouve toujours dans la famille Debray.
Alors il faut dire un mot de Pierre de Lescure, qui va s'effacer au fur et à mesure de l'histoire des éditions de Minuit. Mais on ne sait pas très bien exactement qui est cet homme, si ce n'est qu'on peut l'apprendre en lisant un livre plus ou moins autobiographique, mais c'est justement la question qui se pose, qu'il a écrit et dans lequel il évoque finalement ses rapports avec Vercors. Et ces rapports sont extrêmement complexes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Anne Simonin ?
Alors, Pierre de Lescure, d'abord, on va finir par dire, c'est le grand-père de Pierre Lescure, actuel. Mais c'est surtout un monsieur qui va avoir un profil d'intellectuel engagé très particulier. Parce que Pierre de Lescure, qui est un amoureux fou l'Angleterre, va être quelqu'un qui va travailler pour l'Intelligence Service. Ce qui est extrêmement rare, parmi les intellectuels, dans la mesure où, en règle générale, vous faites une seule chose. Il se trouve que Pierre de Lescure est en lien avec le réseau de Robert Le Guillon, qui est probablement dans ce qu'on sait, qui est une chose très mal connue, qui est un réseau qui va transmettre le secret de l'eau lourde aux Anglais, et auquel aurait probablement été affilié Fernand Holweck. Je rappelle que Fernand Holweck avait plus de 80 ans et a travaillé sur l'atome, et est un scientifique dont les phalanges, enfin qui sera tellement torturé par les Allemands que ses phalanges seront toutes brûlées. Je trouve qu'on n'a jamais rendu suffisamment hommage à la résistance scientifique. Et quant à la résistance intellectuelle, en règle générale, les gens écrivaient des textes, mais il était extrêmement rare que, comme René Char, ils décidassent de prendre le maquis ou de travailler dans véritablement la résistance active, type Intelligence Service.
Donc, Pierre de Lescure publie un journal littéraire dans une librairie. Il rencontre celui qui va devenir Vercors. Il s'associe pour créer ses éditions de Minuit. Et alors la brouille va venir plus tard. Elle va venir après la guerre, c'est cela ?
Oui, mais parce que Pierre de Lescure, à cause des contraintes de l'action clandestine, voilà. Dans, il faut bien comprendre que dans le cadre de la résistance, il y a les seuls vraiment sérieux et qui prennent au sérieux les menaces allemandes, ce sont les communistes. Et quand les communistes considèrent qu'un des agents qui est proche d'eux, ce qui est le cas quand même de Pierre de Lescure, est brûlé, ils le sortent. C'est-à-dire qu'on ne va pas négocier et on va... Donc Pierre de Lescure, en juin 43, va devoir se réfugier avec Célia Bertin, qui est sa compagne, qui sera elle-même, qui est une jeune femme à l'époque et qui sera elle-même écrivain après-guerre. Ils vont devoir quitter Paris et prendre le maquis. Février 42, premier titre des éditions de Minuit. Juin 43, il y a 3-4 titres des éditions de Minuit qui sont parus à cette époque, et juin-juillet 43 étant la date du recueil de poèmes sous la direction de Paul Éluard. Donc il y a très peu de livres qui sont parus et Pierre de Lescure va devoir s'effacer. Ce qui veut dire que c'est Vercors et Yvonne Desvignes qui vont prendre la direction en quelque sorte littéraire des éditions de Minuit. Et quand Pierre de Lescure va traverser la guerre dans des conditions physiques extrêmement éprouvantes et va retrouver en quelque sorte Vercors en 1945, là il va y avoir un vrai déchirement entre des personnes qui ont été des vrais amis et qui ont fait cette chose absolument incroyable, parce que ça pour le coup ils l'ont fait vraiment à deux. C'est Vercors qui a trouvé le nom Les Éditions de Minuit,
qui a fait le logo aussi, parce qu'il était lui-même illustrateur,
voilà, c'est lui qui a dessiné l'étoile de Minuit. C'est Vercors qui a écrit Le Silence de la mer, parce que donc qui n'est pas rien, et puis qui a écrit un deuxième titre qui est peut-être plus essentiel, au moins aussi essentiel en tout cas que Le Silence de la mer, pour la survie des éditions de Minuit, qui est La Marche à l'étoile. La Marche à l'étoile, qui est l'histoire d'un des aïeuls de Vercors, d'origine juive, qui va arriver en France, qui va émigrer de Hongrie pour arriver en France, et qui, jusqu'au bout, alors qu'il est arrêté par la police française parce qu'il porte l'étoile jaune, ne pourra se refusera à imaginer qu'un maréchal de France, comme le maréchal Pétain, puisse livrer des Juifs aux Allemands.
Petit à petit, ce qui m'est apparu, c'est qu'il y avait une chose à sauver. Plutôt, je dirais que résister, résister, au fond, c'était par les armes, n'est-ce pas? Mais il y avait une chose à sauver qui était, si je peux dire, la pureté spirituelle française. Et c'est à cela que Pierre de Lescure et moi nous sommes attachés. Et c'est pourquoi il m'avait demandé d'écrire une nouvelle pour une revue clandestine qui venait de sortir, qui s'appelait La Pensée Libre, qui n'a eu que deux numéros, parce qu'au deuxième numéro, tout le monde a été pris, et donc ça a disparu. Et c'est là-dessus que j'ai eu l'idée, mais ayant écrit cette nouvelle, qui se trouvait donc disponible, de la publier en volume. Et sur ce...
Ce volume c'était
Le silence de la mer. Ça a fait le premier volume d'édition de Minuit, parce que nous sommes dit, puisqu'on fait un volume, on peut bien en faire 40, n'est-ce pas? Et en effet, nous en avons publié, pas non pas 40, mais enfin, on en a publié 24.
C'est là où vous avez fondé, alors, avec Lescure et avec quelques autres, les éditions autres. De Minuit.
C'est cela, oui.
Et les éditions de Minuit ont duré pendant toute la guerre, enfin...
Elles ont duré, oui, environ un volume par mois, n'est-ce pas? Quelquefois deux, mais alors quelquefois, ils se trouvent
et
aussi
un mois. Et personne de l'équipe n'a été pris?
Non, parce que Pierre de Lescure, qui faisait partie de l'intelligence service et qui m'y avait recruté pour l'intelligence service, je ne l'ai fait d'ailleurs que quelques mois avec lui, parce qu'ensuite, il y a eu des histoires qui n'ont pas permis de continuer, nous avait, si je peux dire, enseigné les grands principes de prudence, n'est-ce pas? Que malheureusement, tout le monde n'a pas connu aussi bien. Et nous les avons appliqués avec une très grande rigueur, ce qui fait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Vercors a été mystérieux jusqu'au dernier bien jour, sûr. C'est que personne autour de moi, sauf Pierre de Lescure, ne le savait.
La compagnie des auteurs et à l'instant Vercors, interviewé en 1967 par nos confrères de France Inter. Alors Anne Simonin, quelle était la spécificité de cette maison d'édition qui était une maison d'édition clandestine? Est-ce qu'on y faisait d'abord de la littérature ou est-ce qu'on y était avant tout des résistants?
On y faisait, je crois, vraiment d'abord de la littérature. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été important avec Le silence de la mer. Moi, j'ai eu la chance de connaître Jean Lescure, qui n'a rien à voir avec Pierre de Lescure, et qui était le lieutenant de Paul-Éluard. Et Jean racontait toujours que lorsqu'ils avaient lu Le silence de la mer, au moment où il y avait beaucoup de ce qu'il appelait la littérature d'agit-prop, il s'était dit, le milieu intellectuel français s'était dit, ou parisien s'était dit, là, il y a une vraie ouverture, il y a une brèche. Et je crois que c'est vraiment aussi pour ça que les Allemands n'ont pas pris ça très au sérieux. Je ne crois pas à la sécurité absolue des éditions de Minuit. Je pense que tout simplement, ça n'intéressait pas les Allemands, qui n'ont pas vu quelle était la puissance subversive par rapport à la vision de la France qui était la leur, c'est-à-dire l'annexe en quelque sorte du luxe français et la vie parisienne. Ils n'ont pas vu du tout ce que ça allait représenter et ils n'ont pas vu non plus que très vite les éditions de Minuit, ça allait être plus que les éditions de Minuit.
Parce Mais alors justement, est-ce qu'on peut faire un bilan de ce que les éditions de Minuit ont apporté à la résistance française?
Je pense à un style. Voilà. Et par rapport aux appels à la violence, il y avait quelque chose. Le choix du pacifisme, cette génération qui a été très méchamment décrite par Sartre dans Qu'est-ce que la littérature? Sartre disait, je le rappelle, du silence de la mer, que comme les bananes, il fallait le consommer sur place parce que ça pourrissait vite. Ce qui est pas très juste parce que il y a eu vraiment une génération qui a reconverti son pacifisme, qui a toujours dit, dans le cadre d'une résistance civile, comme l'a très bien montré Jacques Semelin, une résistance civile qui a eu pour fonction, justement, de montrer que il pouvait y avoir une voie subversive pour le choix de la non-violence. Minuit n'a jamais publié contre les Allemands, mais l'achevé d'imprimer était contre l'occupant nazi. Mmh. Et ils ont toujours...
Et contre Vichy aussi.
Et contre... Alors, Vichy, ils sont... c'est plus compliqué Vichy pour eux, mais c'est vraiment contre le nazisme et ils vont d'ailleurs publier certains textes de poètes allemands en insistant sur le fait qu'ils ne sont pas contre l'Allemagne. Ce sont des pacifistes, ce sont des Européens convaincus, mais ils luttent contre le nazisme. Et je pense que ça, c'est une lecture incroyablement les Anglais diraient accurate, vraiment
précise
et en même temps totalement circonstanciée dans le bon sens de la situation historique. Mmh. Il y avait effectivement une mobilisation à avoir contre le nazisme. Réussir à le faire avec le style qu'ils y ont mis, ça reste quand même un véritable exploit.
Alors Anne Simonin, après la guerre, une question se pose pour ces éditions qui sont des éditions de la clandestinité, c'est comment se réinventer dans un temps qui est le temps de la paix, comment se normaliser aussi.
Oui, et ça c'était douloureux, parce que les éditions de Minuit pendant la guerre, il n'y a jamais eu d'histoire d'argent, enfin il y a eu des histoires d'argent, mais il n'y avait pas de marché. C'est-à-dire que le livre, il y avait les livres étaient distribués, il y avait des gens qui s'abonnaient, donc on distribuait les livres, mais il n'y avait pas de problème de fin de mois. Or, à partir du moment où vous êtes dans un milieu éditorial qui a beaucoup collaboré, qui a majoritairement collaboré, à part Edmond Charlot et les frères Émile Paul, tous les éditeurs français ont accepté la convention de censure, de signer la convention de censure avec les Allemands. Donc, personne n'a intérêt à ce que Minuit, en quelque sorte, joue le reproche vivant.
On peut dire quand même, entre parenthèses, qu'il y a les cahiers de la Libération ou les cahiers de Libération qui ont aussi, durant cette période-là, publié clandestinement des auteurs. Histoire de dire qu'il n'y avait pas tout à fait que les éditions de Minuit.
Non, bien sûr, mais il n'y a pas, si vous voulez, dans les cahiers de Libération, vous avez tout à fait raison, c'est le champ des partisans sera publié dans les cahiers du mouvement Libération, mais vous n'avez pas cette perfection formelle que Minuit ne va pas maintenir dans tous ses ouvrages, parce qu'il y a des moments où ils vont devoir faire alliance avec des imprimeurs communistes qui vont beaucoup les aider, et je me souviens d'avoir rencontré Gilbert Grouranez avec une collection originale des éditions de Minuit, qui était un grand imprimeur, dont le père était l'imprimeur du journal clandestin Défense de la France, qui avait fait deux tas, et qui m'avait dit « ça vient d'une imprimerie, et ça vient d'autres imprimeries ». Et là, j'étais quand même un peu bluffé. Je dis « mais monsieur, comment est-ce possible ?» Il me dit « regardez les ancrages ». Effectivement, les polices de caractère, ce qui permettait aux Allemands, en réalité, de traquer les imprimeurs, parce que les polices de caractère montraient qu'il y avait des provenances. Et les gens qui vont beaucoup payer les éditions de Minuit clandestines, ce sont les imprimeurs, parce que en juin 44, il va y avoir... Et les imprimeurs dans la clandestinité, c'est une profession qu'on connaît extrêmement mal. Marie-Cécile Bouju travaille sur ces gens qui ont été absolument essentiels. Et les descentes de la Gestapo vont se faire dans les imprimeries clandestines.
Alors pour avancer un petit peu dans le temps, en 1945, Pierre de Lescure s'en va et il est remplacé par quelqu'un dont il faut dire aussi un mot et qui s'appelle Georges Lambrix, qui lui vient de la galaxie NRF.
Oui, qui vient de la galaxie NRF, qui sera le patron d'une revue dont on reparle beaucoup actuellement, qui s'appelle la revue 84, et qui va essayer, aux éditions de Minuit, de rassembler des auteurs qui ne soient pas dans la commémoration résistante.
Donc pour en faire une véritable maison d'édition littéraire et uniquement littéraire, qu'il souhaite d'ailleurs un peu calquer sur le modèle Gallimard-NRF.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire une sous-NRF.
Et alors, il récupère donc des auteurs que NRF ne prend pas.
Il récupère des auteurs que NRF ne prend pas, oui, et puis pas n'importe quels auteurs, puisque c'est quand même Bataille Blanchot-Klossowski. C'est la grande, trilogie.
Pas tellement une sous-NRF, alors.
Non, c'est pas. Le problème, c'est que, moi, j'ai appelé ça un pôle des refusés Gallimard, mais l'ambition est quand même, totalement dominée par ce que Solaire s'appelle à juste titre la banque centrale, c'est-à-dire ça reste Gallimard. Donc il y a quand même une fascination pour le modèle Gallimard qui est...
Est-ce que ça va au moins remplir les caisses de s'appeler la banque centrale ou la sous-banque centrale?
Non, ça remplit rien du tout, ça les vide même, plutôt. Alors ça, c'est le grand, moi je trouve que c'est le grand mérite d'une certaine façon. On publie la littérature parce que vous imaginez pas que Bataille, Blanchot, Klossowski, Gaston Gallimard est quelqu'un qui déteste voir partir des auteurs, mais qui a tellement de retard et des problèmes de stock de papier. Il ne faut pas oublier que la France est restée jusqu'en 1949 sous rationnement, y compris pour le papier. Donc, si vous voulez, on les met en attente, un peu comme on les mettrait en jachère chez Minuit, ce qui est une position agréable, mais ça a aussi un temps. D'autant plus qu'ensuite, dès qu'un livre commence à marcher, Gaston Gallimard récupère.
Bon, toujours est-il qu'il y a à ce moment-là une espèce de période de transition. Financièrement, ça ne se passe pas très bien. Vercors est obligé de partir parce qu'il n'a pas d'argent. Jérôme Lindon, par sa famille, en a davantage. C'est un jeune typographe qui a à peine 20 ans, je crois, à ce moment-là. Et puis qui arrive dans la maison, il prend la direction des éditions de Minuit.
Alors juste un point, Vercors n'a pas d'argent. C'est vrai, mais en même temps, il refuse la consolidation de ses droits d'auteur sur le silence de la mer. Et à partir de ce moment-là, Jérôme Lindon, qui effectivement est un jeune résistant, puisqu'il a été dans les maquis du Tarn, Jérôme Lindon, qui vient d'une famille bourgeoise aisée, va, Vercors va dire, qui propose d'apporter des fonds parce que il tient à cette maison, c'est son gagne-pain, et puis que il a effectivement une famille qui est prête à mettre un peu d'argent, c'est pas des sommes extraordinaires comparées au jour d'aujourd'hui, à cause non pas tant du silence de la mer que de la marche à l'étoile. C'est-à-dire, c'est une famille d'israélites français, ce qu'on appelle à l'époque des israélites français, et qui considèrent que voilà, on a défendu leur vision du monde et de façon extrêmement cohérente, ils sont prêts à mettre de l'argent. Et Vercors va considérer qu'il a un droit de veto sur toute la production. Il veut bien accepter l'argent, mais il veut garder l'autonomie de la direction littéraire. Ça, c'est 1948. Et Jérôme Lindon va dire, et ça l'étonnait, je crois, encore 50 ans après, quand Vercors va lui dire d'accord pour l'argent, mais je garde un droit de veto, il va dire non. Non, il n'y a pas de droit de veto. Et à ce moment-là, il va se retrouver. D'abord, il va devoir annoncer ça à son père, qui est un avocat très connu, qui est un avocat général à l'époque, qui s'appelle Raymond Lindon, qui n'est pas particulièrement joyeux de voir son fils à 23 ans en charge d'une maison d'édition en faillite, mais qui va en même temps l'aider totalement, parce qu'il va mettre en quelque sorte la loi de son côté, ça a une vraie importance. Et donc Jérôme Lindon va se retrouver PDG des éditions de Minuit en 1948.
Et là, c'est une nouvelle époque qui s'ouvre, la seconde, pourrait-on dire, avec Jérôme Lindon, et puis aussi avec un auteur en particulier, c'est Beckett, l'auteur de Molloy.
Pour moi, ça a été Molloy a été ce déclencheur. Tout à coup, je me suis dit deux choses. D'une part, que c'était évident que c'était une grande œuvre dès la première seconde, dès la première phrase, dès la première ligne. Je suis dans la chambre de ma mère, c'est moi qui y vis maintenant, etc. Ça se sentait dans l'immédiat, pour moi, la même impression que je croyais avoir déjà éprouvée avec, comme je vous dis, des livres de Faulkner ou de Kafka, par exemple. Et deuxième impression, correspondant à la première, enfin immédiate aussi, c'est comment se fait-il que c'est un écrivain aussi évident que celui-ci ait pu passer à travers tous les cribles de l'édition française. J'ai su après qu'il y avait eu 27 éditeurs qui avaient eu les œuvres de Beckett et qu'aucun ne les avait retenues. Et ça a été donc doublement déterminant, parce que je me suis dit, si vraiment... D'abord, je me suis rendu compte que je pouvais éprouver ce sentiment de...
Vous n'étiez pas sûr finalement de savoir le reconnaître le jour venu. Vous attendiez l'illumination, mais sauriez-vous l'avoir,
ouais. On ne peut pas le savoir avant que ça arrive. Alors, d'une part, il y a ça. Et puis, deuxièmement, je me suis dit, comment se fait-il, en effet, que l'édition française ne soit pas en mesure de publier un écrivain comme Beckett quand il se présente? Et donc, effectivement, j'ai eu... peut-être à partir de là, le sentiment, un, que je pouvais être éditeur, et deuxièmement, que même ça pouvait avoir un intérêt que je le sois, puisque je comblais en quelque sorte un certain vide.
Compagnie des auteurs. Ce que Jérôme Lindon racontait là, Anne Simonin, au micro de Jean-Maurice de Mourmy en 1994, c'est finalement le début de l'acte 2 des éditions de Minuit, avec l'arrivée de cet inconnu au catalogue, Samuel Beckett, dont Lindon commencera par publier Molloy, c'est en 1951, et puis ensuite tout le reste va suivre jusqu'au prix Nobel en 1969.
Alors, je pense que voilà, ça c'est le coup de grâce en quelque sorte, mais dans le bon sens du terme. Il va faire plus que ça, Jérôme Lindon. C'est-à-dire que il va avoir une façon très intelligente de publier Beckett, parce qu'il va publier Molloy, Malone meurt, et puis qu'il va intercaler avec En attendant Godot avant de publier L'innommable. Et ça, c'est très essentiel, parce que la notoriété, Beckett va l'avoir tout de suite avec Malone meurt, parce qu'il est repéré par Maurice Blanchot et qu'il aura droit à une critique de Maurice Blanchot. Mais enfin, c'est pas ça qui augmente beaucoup les chiffres de vente, faut être clair. Et donc tout de suite, ça classe. Mais Beckett, c'est fondamental parce que ça va classer les éditions de Minuit parmi les maisons d'édition littéraire à un moment où... le marché n'a pas beaucoup d'importance. Et au contraire, moins on gagne d'argent avec la littérature, et mieux on se porte, parce qu'on fait vraiment de la littérature. Et pas du commerce.
Est-ce que là, Jérôme Lindon apprend aussi son métier d'éditeur? Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir pour ce jeune homme.
Non. Alors justement, c'est là où ce qu'il y avait d'impressionnant avec Jérôme Lindon, c'était que Jérôme Lindon, il savait fabriquer un livre. C'est-à-dire que sa maison, il la connaissait non seulement du sol au plafond, mais son livre, il le connaissait de la page de garde à la quatrième de couve. Et c'était un chef, il n'avait jamais été chef de fabrication, mais il avait travaillé à la fabrication. Donc il y a ce rapport matériel à l'objet livre, qui est celui de Jean Blindon. Il va modifier un tout petit peu la maquette des éditions de Minuit en traçant sur un livre de Jacques Brenner un liseré bleu qui est totalement repompé sur le liseré rouge de la NRF, mais donc il stabilise en quelque sorte une maquette et ça va pas changer, d'ailleurs c'est toujours à peu près la même chose, l'étoile va être plus ou moins grasse ou bon selon, mais ça va rester une sorte d'épure à l'exception des moments où il va s'enthousiasmer pour des couvertures qui ne sont pas restés dans l'histoire de l'édition, c'est d'ailleurs dommage, mais ça reste, voilà, il a un produit et c'est quelqu'un qui va s'intéresser au mot livre. Toute personne qui a été relue par Jérôme Blindon vous dira qu'il faisait des corrections.
Un perfectionniste, hein. Il s'occupait absolument de tout et il lisait tout.
Ah, il lisait absolument, oui. C'était quelqu'un qui lisait son catalogue, oui. Voilà, ça c'est. Mais
et qui travaillait avec les auteurs.
Qui travaillait avec les auteurs, qui corrigeait les auteurs, qui avait un rapport à la virgule très singulier et d'une très grande exigence vis-à-vis de la grammaire française.
Et qui allait créer l'auteur Minuit, cet auteur Minuit dont nous allons parler avec vous, Anne Simonin, dans la seconde partie de cette émission. Mais pour l'heure, c'est le moment de la chronique de Marianne Payot.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Marianne Payot, rédactrice en chef adjointe du service livre de l'Express. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Vous nous parlez aujourd'hui du livre Venise à double tour de Jean-Paul Kaufmann. Jean-Paul Kaufmann qu'on attendait pas forcément sur ce sujet de Venise, l'une des villes les plus citées et les plus commentées du monde.
En effet, on peut dire ici que l'homme est paradoxal. Depuis sa libération des geôles libanaises du Hezbollah en 1988, l'ex-journaliste de l'événement du jeudi, Jean-Paul Kaufmann, habité par l'esprit des lieux, n'a cessé d'arpenter les contrées les plus improbables et négligées. Passé maître dans l'art de peupler le vide et d'enchanter le trivial, il a magnifié les Hautes-Landes, les Kerguelen, Sainte-Hélène, Eylau, Courland, la Marne. Tout s'y enclenchant, non par magie mais par défaut, il y a, dit-il, joué sur du velours. Et le voilà soudain qu'il s'attaque à la profusion et à la plénitude vénitienne. Enserré par la beauté, il faut garder son sang-froid, reconnaît-il. Et surtout, comme l'écrit Marie Mercati, ne pas faire son malin avec Venise, ni s'essayer à la sophistication. Pas de sophistication chez Jean-Paul Kaufmann, mais une idée fixe. Se faire ouvrir quelques-unes des 49 églises fermées de la Sérénissime. C'est cette enquête et cette quête de plus de 5 mois qu'il relate dans Venise à double tour, monument de culture mais aussi d'humour, portrait d'une ville aux 30 millions de touristes et aux 100 clochers.
Alors Jean-Paul Kaufmann, a-t-il, Marianne, une relation spéciale avec l'Italie ?
Oui, il lui dit de voir presque tout. Jeune, il en rêvait. Elle représentait l'allégresse et le pays des grandes vacances. C'est ainsi que depuis 1968, il y va 2 fois par an, surtout à Venise. Cette ville qui, dit-il, fait corps avec son passé et ne connaît pas la nostalgie. Il l'appréhendait petit à petit. L'a même visité avec Hugo Pratt en 1983. Et a tout lu sur elle, notamment la reine Albemarle de Sartre. Une tentative d'épuisement de Venise d'une belle générosité, dit-il. Il est vrai que Jean-Paul Kaufmann avoue avoir une grande gratitude à l'égard de Sartre pour avoir dévoré les chemins de la liberté pendant sa détention. Une détention sur laquelle il revient ici à plusieurs reprises. C'est une cicatrice qui sans doute a cessé de faire mal, écrit-il, mais qu'on n'a pas oubliée. Cette marque qui ne s'effacera pas donne à la vie une consistance prodigieuse, presque sauvage. J'ai extirpé le sentiment de vengeance, non pas vertu mais par hygiène mentale. La vengeance est une souffrance qui vous désagrège, confie-t-il plus loin, revenant pour l'occasion sur le caractère subversif du message évangélique. C'est un fait donc. L'ancien détenu déteste les endroits bouclés à double tour. Voilà pourquoi il a eu envie un jour de pénétrer dans les églises fermées afin de découvrir les trésors cachés de ces sanctuaires. Ses amis lui disaient « Contente-toi des églises ouvertes ». Mais il s'est obstiné, a voulu comprendre pourquoi elles étaient closes et qui en détenait les clés. Lacan lui aussi, rappelle-t-il, tambourinait sur les portes des églises fermées.
Alors est-ce qu'il a réussi à se faire ouvrir ses portes finalement ?
Eh oui, à force de pugnacité, plus d'une vingtaine d'églises se sont ouvertes à lui. Un spectacle unique, dit-il, entre saisissement et ébahissement, avec la lumière de l'extérieur qui ressuscite ces lieux plongés dans le silence et les ténèbres. Mais aussi un spectacle le plus souvent pathétique. Ainsi, à Santa Ana, il voit la mort en face. Quant à l'église Santa Maria del Pianto, où se mêlent la grâce et la dégradation, elle a atteint, dit-il, un point de non-retour. À propos de l'église de Terrace, avec ses 6 autels latéraux et leur marqueterie incrustée d'émaux et de marbre, il évoque l'injure faite à la beauté. Il pénètre aussi dans l'église Santa Maria della Misericordia, transformée en mosquée lors de la Biennale de 2015, ou encore dans la vaste San Lorenzo, où Marco Polo est enterré.
On imagine que tous ces trésors l'ont rassasié.
Certainement, mais il le confesse. Dans cette chasse au trésor, c'est moins le trésor que l'attente, l'imprévu, les bifurcations et le braconnage qui importent. « Depuis toujours, j'ai préféré le combat à la victoire », écrit-il. Si le monde se divise entre hystérique et obsessionnel, je suis obsessionnel. Une très belle définition du journalisme, somme toute.
Comme on peut le lire d'ailleurs dans les pages de L'Express, notre partenaire. Merci Marianne Payot.
Merci à vous.
Nous parlons cette semaine d'édition et d'éditeurs dans la compagnie des auteurs. Après Jean-Jacques Pauvert et avant Maurice Nadeau, nous nous intéressons aujourd'hui aux éditions de Minuit, incarnées d'abord par l'époque Vercors, Lescure, Lambrix, puis par Jérôme Lindon et aussi par Alain Robbe-Grillet, qu'on écoute à présent en archive.
L'éditeur normal, il a tendance à normaliser les textes. Vous savez qu'il y a même chez beaucoup de grands éditeurs des fonctionnaires normalisateurs. Chez certains éditeurs américains, c'est même fait par des ordinateurs maintenant. Il y a des ordinateurs qui jugent de la normalité du récit, ce qui est merveilleux, monstrueux bien entendu. Alors, nous avons fait, Jérôme et moi, exactement le contraire. Nous avons poussé ces écrivains à s'accomplir selon leur projet d'écrivain et sans se soucier de la vente de leurs livres, ni de l'approbation de la critique au pouvoir et de ces visées normalisatrices, car la critique au pouvoir appartenait exactement à la même population de normalisateurs, c'est-à-dire de censeurs, qui censuraient la littérature, comme les gens qui ont censuré Flaubert à l'époque. C'est Maxime Ducamp qui avait conseillé à Flaubert de raccourcir la description de la casquette de Charles. C'est Ducamp ou c'est Bouillet, je ne me rappelle plus, c'est un des deux. Et Flaubert a raccourci vraiment, et on n'a plus le manuscrit de la description originale de la casquette, qui paraît-il était monstrueuse alors cette fois-là. Alors, on a fait le contraire. On les a poussés à devenir eux-mêmes jusque dans leurs plus grands excès. Or, ça a joué un rôle.
Alain Robbe-Grillet au micro de Jean-Maurice de Montrémy. En 1993, Robbe-Grillet, qu'il ne faut pas oublier non plus dans l'histoire de la maison, Anne Simonin, je vous voyais quand même pas tout à fait d'accord avec ce qui était dit là.
Non, je suis d'accord avec... alors d'abord, Alain Robbe-Grillet, qu'il ne faut pas oublier. Non, c'est un des piliers des éditions de Minuit. C'est la 1953, date de la publication des Gommes à 1985. Il est la seule personne extérieure avec laquelle Jérôme Lindon lit quand même. Donc ce qui est quand même pas rien. C'est le pape, entre guillemets, du nouveau roman.
C'est l'inventeur, en fait, de tout cela.
C'est l'inventeur. Enfin, il est co-inventeur. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai travail. Il y a eu un vrai travail collectif. Alors là où je suis tout à fait d'accord avec Alain Robbe-Grillet, c'est l'autonomie vis-à-vis du marché. Et encore une fois, quand la modification de Michel Butor reçoit un prix en 1957 et qu'il vende dans le cadre de ce qu'on appelle déjà le nouveau roman 90 000 exemplaires, Jérôme Lindon et Alain Robbe-Grillet sont consternés. Parce que si ça se vend si bien que ça, c'est que c'est pas très neuf. Mmh. Voilà. Bon, alors, il y a d'autres problèmes avec...
Et vous êtes d'accord avec cette analyse? Peut-être que parfois, la nouveauté plaît?
Non, je pense qu'il y a eu... Je ne sais pas si je suis d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment il fonctionne vis-à-vis du marché. Il y a une maison qui est en faillite jusqu'en 1962. C'est long de rester en faillite de 1948 à 1962. Et il est vrai que c'est le moment où la maison va prendre des risques énormes d'un point de vue littéraire. Et en se lançant dans le nouveau roman, je pense que là, ni Jérôme Lindon ni Alain Robbe-Grillet ne pensent qu'ils vont faire fortune avec le nouveau roman. Ça, c'est très clair. Mmh. mais qu'il est important de travailler un modèle littéraire qui soit pas un modèle Gallimard. Et là, il va y avoir une sorte de séparation des rôles. À la littérature, au nouveau roman, la politique à la guerre d'Algérie. Mais en même temps, en réussissant à faire de la littérature dégagée, en quelque sorte, avec des gens qui sont très engagés.
On va parler de la période de la guerre d'Algérie, parce que c'est vrai que c'est très important. Peut-être expliquer un petit peu quand même cette idée. Je ne sais pas si elle a été verbalisée comme ça par Jérôme Lindon ou si ça s'est fait petit à petit et naturellement, mais le rapport à l'auteur, à ce qu'on appelle un auteur minuit, est tout de même très particulier dans cette maison-là.
Oui, c'est un rapport particulier parce que c'est un rapport, enfin c'est cette formule de Régis Debray, d'un éditeur qui est auteur d'auteur. Il y a un travail avec sur les textes qui se fait avec Jérôme Lindon. Jérôme Lindon ayant une dilection particulière, par exemple pour les titres. Détruire, dit-elle, c'est un titre de Jérôme Lindon. C'est-à-dire que Marguerite Duras apporte Détruire et lui rajoute, dit-elle. Voilà, il y a comme ça des choses et qui sont très marquantes. Et puis là où j'étais pas forcément d'accord avec Alain Robbe-Grillet, c'est sur le rapport avec la critique. Aussi bien Jérôme Lindon que lui ont toujours fait très attention à la critique. Simplement, ils se sont appuyés sur une critique qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire à savoir Maurice Blanchot et Roland Barthes. Et là, ils ont quand même, enfin, toute la construction du nouveau roman se fait avec l'aval de Roland Barthes. Et c'est très important, tout ce travail critique. Et c'est aussi donc un type de rapport au lecteur. Parce que, au départ, ils vont, Jérôme Lindon et Alain Robbe-Grillet vont rédiger des quatrièmes de couverture jusqu'à ce que, qui sont au dos des ouvrages dits du nouveau roman. Le nouveau roman étant composé donc de Michel Butor, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Robert Pinget. Le grand ancêtre, c'est Samuel Beckett, mais qui reste toujours très en retrait.
Claude Simon.
Et Claude Simon, oui, bien sûr. Et donc, il va y avoir entre ces des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes points de vue esthétiques, qui n'ont pas nécessairement de très bonnes relations personnelles entre eux, mais qui vont représenter, à un moment donné, une volonté de dégager la littérature. Et je pense que c'est vraiment la réponse aux théories de la littérature engagée de Jean-Paul Sartre.
Ces noms que vous venez de citer, ils ont des points communs et qui font aussi l'auteur minuit. Par exemple, c'est bien si l'auteur minuit vient de province, s'il est étranger, si en tous les cas il ne fait pas partie du milieu germano-pratin. Et puis, avec cet auteur, on va tisser une relation d'amitié. Et ça, c'est un esprit qui doit aussi être l'héritier de la fraternité qu'on pouvait trouver, au moins comme concept idéal, dans la Résistance. Donc il y a comme ça une espèce de volonté de perpétuer quelque chose qui va au-delà du simple commerce du livre.
Ah, ça c'est certain, mais il faut voir aussi que l'auteur minuit, il est quand même incarné en majesté par Samuel Beckett. Et il y a une chose sur laquelle il faut insister pour le caractériser, c'est le désintéressement. C'est-à-dire, quand je parle de désintéressement, mais au sens bourdieu du terme, c'est-à-dire un refus, un déni de l'économique. Et donc, ce n'est pas des gens qui touchent des avaloirs, ce n'est pas des gens qui regardent leurs chiffres de tirage, et ils sont là, et je pense que l'esprit de la Résistance, je ne suis pas sûr qu'il soit au niveau de l'amitié, je pense qu'il est dans la conscience qu'il y a une sorte d'intérêt général de la littérature. Et que minuit, c'est une sorte de surmoi positif. Voilà, il y a une histoire de cette maison. Il y a des gens qui sont morts pour les éditions de minuit. Si ça n'a pas été les auteurs, puisque donc tous les auteurs de la maison clandestine, il faut le redire, ont survécu, ont traversé l'occupation. Il y a des imprimeurs qui sont morts pour les éditions de minuit. Et il y a eu ce moment où cette maison a été la maison de la Résistance. Et je pense que ce qui fait une véritable... Quand on publie chez minuit, on ne publie pas n'importe où. Et minuit oblige, d'une certaine façon.
Mais alors précisément, cet esprit de résistance, Jérôme Lindon ne l'incarne pas tout à fait. Certes, il a été résistant, mais enfin il était très jeune. Et puis c'est Vercors qui portait les valeurs de la Résistance. Donc il va falloir qu'il se légitime. Et cette légitimation, Anne Simonin, elle va passer par la guerre d'Algérie.
Elle va se faire en deux temps. Elle se fait... par Samuel Beckett. Et quand vous parlez de légitimation, c'est vrai, puisque donc Jérôme Lindon a été résistant, contrairement à Alain Robbe-Grillet, qu'il a d'ailleurs très bien raconté dans Le Miroir qui revient, qui vient d'un milieu pétainiste. Alors lui, la résistance, c'est vraiment pas du tout son truc. Mais il y a ce besoin de s'inventer comme éditeur, et puis effectivement le besoin de savoir comment vous auriez réagi en tant qu'éditeur. En tant qu'éditeur, parce que en tant qu'individu, Jérôme Lindon sait comment il réagit. Il est au maquis et il est croix de guerre, Jérôme Lindon. Donc il n'a pas tellement de preuves à faire. Mais en tant qu'éditeur, confronté à une situation historique difficile, comment eût-il réagi? Et c'est au moment de la guerre d'Algérie qu'il va apporter sa réponse. Voilà. Et ça, c'est une importance décisive.
Ne sent pas spécialement une vocation d'éditeur politique. Il se trouve qu'il y avait un événement politique qui s'est passé là, comme il y en avait eu un au moment de la fondation des éditions de Minuit. C'est pas nous qui l'avions provoqué, et que j'estime que c'est le devoir d'un éditeur, quand une conjoncture comme celle-là se présente, de faire ce qui est en son pouvoir pour défendre, par exemple, l'idée de liberté, qui est malgré tout celle sur quoi se fonde notre métier. Je me dis que quand on a la chance d'être l'éditeur, disons, de Beckett, pour prendre un nom, on se doit de défendre la liberté qui vous en donne le pouvoir. Donc, au moment où cette liberté est en cause, il est normal qu'on se manifeste. Maintenant, quand la liberté n'est plus en cause, je ne me sens pas, je vous dis, systématiquement une âme de leader politique du tout. Et je préfère les époques où je n'ai pas besoin de défendre ses idées, c'est tout de même plus agréable. Mais en tant qu'éditeur, j'estimais que la seule chose que j'avais à faire, c'était à publier un type de livre qui m'ont valu 12 inculpations, des condamnations, et disons, qui m'ont valu peut-être en effet à certains moments de passer près du désastre.
Tout de même, Anne Simonin, dans cette archive, c'est que pour Lindon, c'est tout de même d'abord la littérature, et ensuite, même si c'est très lié, la politique.
Oui, mais il n'y a pas une certaine littérature s'il n'y a pas un certain type de politique, et je crois que c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, il expliquait quand il a été confronté au manuscrit de la question d'Henri Allègre.
Donc un livre sur la torture.
Oui, qui est là, 1958. Le grand livre. Ouais, la dénonciation de la torture. Bon, quand il est confronté à un texte qu'on lui apporte un manuscrit qui est dactylographié, qu'est-ce qui prouve que Henri Allègre dit vrai? Indépendamment du fait que c'est un texte qui est admirablement écrit, pour moi c'est le vrai texte emblématique des canons esthétiques du nouveau roman. Il faut faire attention aussi à ça, parce que c'est un texte...
Henri Allègre, c'est un auteur du nouveau roman ?
Ah, pour moi, oui, totalement. Mais c'est surtout le directeur d'Alger Républicain, c'est a priori c'est un journaliste, mais la façon dont il décrit de façon absolument clinique, avec en restant tout le temps en retrait, la façon dont il va être traité et torturé au centre des parachutistes d'El Biar à Alger, est quelque chose qui est complètement nouveau roman. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire de la morale, mais pour essayer de trouver le ton juste. Et la puissance du texte d'Henri Allègre, si vous le relisez ça encore aujourd'hui, c'est absolument stupéfiant. Elle repose aussi sur son style. Mais quand Jérôme Lindon le publie, il le publie justement à cause de la véracité du style. Et il disait toujours, c'est parce que j'ai publié Beckett et que je savais que Beckett c'était authentique par rapport à un certain type d'émotion littéraire. Mais je savais qu'Allègre mentait pas, et je le savais parce que le style.
C'est là où c'est très intéressant, parce que on se retrouve avec une nouvelle façon d'être un écrivain engagé, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est plus Sartre, c'est plus non plus les auteurs Minuit de la période de l'occupation, mais c'est quand même des auteurs qui ne sont pas dans l'art pour l'art. On pourrait penser que Claude Simon, par exemple, c'est l'art pour l'art, que Duras aussi, c'est l'art pour l'art. Mais non, parce qu'ils sont liés à cette maison qui est identifiée avec le combat pour l'Algérie indépendante.
Ah, absolument. Bon, ils sont quand même beaucoup plus les enfants de Sartre qu'ils ne veulent l'admettre, à cause de ce texte très important de Sartre, qui est la préface à Portrait d'un inconnu de Nathalie Sarraute, où Sartre va en quelque sorte, dans sa puissance conceptuelle, théoriser ce qu'il appelle l'anti-roman. Et le nouveau roman, c'est l'anti-roman au sens sartrien du terme. Simplement, c'est Minuit qui va le produire, cet anti-roman. Et quand même, Alain Robbe-Grillet, dans ses écrits théoriques, il tapait toute la journée sur Sartre. Et je me souviens que Jérôme Lindon, quand il y a eu la saisie de la question et l'adresse des prix Nobel pour demander la levée de la saisie de la question, racontait qu'il avait croisé Jean-Paul Sartre sur le boulevard Saint-Germain, qu'il lui avait parlé du texte en lui demandant s'il accepterait de le signer. Et il disait, j'étais sûr qu'il allait me dire non. Et il me dit, et ça, c'était la formidable générosité de Sartre. Sartre, sans avoir lu le texte, a dit, évidemment, vous utilisez mon nom. Voilà, donc il faut voir, quand vous menez vraiment la guerre à un ennemi déclaré comme l'était Sartre, il y a aussi des sortes de véritables fraternités. C'est là aussi où il y a esprit de la résistance pour moi, dans le paradoxe et dans le fait que les plus ennemis ne sont jamais ceux que l'on croit.
Aujourd'hui, il y a encore un esprit de la résistance aux éditions de Minuit. Et quelle serait cette résistance? La résistance contre quoi?
Je pense que contre une certaine normalisation, ce que disait très bien Alain Robbe-Grillet, c'est-à-dire le dur désir de durer et de maintenir une politique indépendante dans une maison d'édition littéraire. Je pense que ça, c'est déjà un acte de résistance en soi et au quotidien. Et qui fait peut-être pas beaucoup de bruit, mais Minuit, c'est toujours cette rue Bernard Palissy. Vous pouvez y aller voir. Et ça, c'est la durée est l'attestation de ce que représente la résistance à une évolution des structures de la concentration, en particulier de l'édition littéraire. Et le fait que c'est toujours... il me semble que lorsqu'Irène Lindon publie aujourd'hui un livre, elle risque. Voilà. Le pari, il est éternellement recommencé, mais il y a un vrai pari.
D'ailleurs, il y a eu un seul livre aux éditions de Minuit à la rentrée littéraire de septembre dernier. C'était le livre de Pauline Delabroix-Allard, qui est par ailleurs prix France Culture Télérama, Sarah contre Sarah, donc encore un titre très Minuit.
Oui.
Et puis aussi, ce risque dont vous parlez, c'est-à-dire un seul livre qui paraît.
Oui, et un vrai enthousiasme, et un livre qui arrive, un manuscrit qui arrive par la poste. Donc qui ne passe pas à ce que vous, quand vous disiez il n'y a pas d'esprit germano-pratin, c'est-à-dire que tout le monde peut être, il y a une formidable démocratie aux éditions de Minuit, tout le monde peut être publié aux éditions de Minuit, vous n'avez pas besoin d'avoir des réseaux, vous n'avez pas besoin d'avoir vous pouvez l'être si vous envoyez un manuscrit par la poste, et ça se fait avec et c'est Irène Lindon, c'est pas XY qui va vous téléphoner, et c'est un choix personnel et c'est en pari. Voilà. Et il se trouve que pour le livre, pour Sarah contre Sarah, dont j'adore le titre, et j'aime beaucoup le livre aussi, ça a été un pari gagnant. Mais il y a aussi des paris perdants. Et c'est ça qui fait quand même l'esprit de résistance, fondamentalement, de la maison.
Un autre pari gagnant, c'est Jean Echenoz, qui a d'ailleurs écrit un petit livre que vous avez forcément lu, à la mort de Jérôme Lindon, qui s'appelle justement Jérôme Lindon.
Ouais. Et ça, bon, Jean Echenoz, c'est les grands, enfin, ça a été des moments, il y a des moments de bazo littéraire. Et d'ailleurs, Jérôme Lindon le disait, après le nouveau roman, et les grandes années, bon, il y a une année, c'est 1957, quand vous avez la publication de la modification du vent de Claude Simon, je crois qu'il y a aussi un titre de Pinget.
L'année 57, c'est vraiment l'année Minuit?
C'est une année nouveau roman. Là pour le coup, puis 58, vous enchaînez avec la guerre d'Algérie, il y a une sorte de densité du temps éditorial. Et Jean Blandon disait toujours qu'il avait fallu attendre, il y avait eu un creux dans les années 60, il avait fallu attendre Tony Duvert et Monique Wittig, qui vont être deux auteurs dans lesquels il va beaucoup croire, et d'un point de vue littéraire. Et puis après, il y aura Jean Echenoz et Jean-Philippe Toussaint avec La Salle de Bain dans les années 80. Donc c'est, et à chaque fois, il y avait la même disponibilité. Je crois que c'était ça qui était vraiment... Moi, j'ai rencontré Jérôme Lindon quand il a publié la Salle de Bain de Jean-Philippe Toussaint. Il était toujours fondamentalement amoureux du dernier texte, en disant que c'était toujours compliqué pour un auteur, parce qu'un éditeur était par définition un polygame. Mais un polygame, ça voulait dire qu'il aimait tous ses auteurs d'une certaine façon, et que ça faisait partie des choses qu'il fallait accepter, et du formidable enthousiasme qui pouvait être celui de Jérôme Lindon. Et je pense que Jean Echenoz lui a fait un très beau cadeau, d'une certaine façon, en faisant de la vie d'un homme, de la vie d'un éditeur, le titre d'un ouvrage publié aux éditions de Minuit.
On aurait pu parler aussi d'Éric Chevillard, qui vient de publier peut-être même dans le sillage de Beckett, un roman intitulé L'explosion de la tortue. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce livre.
Non, et pas encore. Et l'article 453 du Code pénal, qui aussi sont des livres, là pour le coup, où vous revenez à une forme de littérature qui décrit un état du monde que le style permet fondamentalement de critiquer.
Merci Anne Simonin. Pour aller plus loin, on peut lire de vous les éditions de Minuit 1942-1955, Le devoir d'insoumission. C'est publié aux éditions de l'IMEX, ça date de 2008. Également Le droit de désobéissance, les éditions de Minuit En guerre d'Algérie, publié justement aux éditions de Minuit, cette fois en 2012. C'était La Compagnie des auteurs, une émission proposée par Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Vanessa Prévost, Garance Mazelier et Jacques Hubert. Demain, c'est de Maurice Nadeau dont nous parlerons avec Tiphaine Samoyau. Mais tout de suite, c'est le retour de la poésie. Et c'est comme chaque jour avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Cette semaine, salon de beauté. Soin de beauté, la poésie produit de beauté. Pour les besoins de cette émission, on a fait l'expérience à Lyon d'un traitement par la beauté. Eh bien, ça marche. La beauté soigne. Ainsi que l'exclamation qui la prolonge. Super. Jacques, écoute, magnifique. Exclamation ou long commentaire. Colloque de l'invitation à la beauté, c'était en janvier. En ces premiers hivers de notre universel des plaisirs, nous voilà prêts pour des séjours réparateurs. Poésie et bien-être. La détente par l'octosyllabe. Retrouver équilibre et confiance en soi grâce au haïku. Toutes les étapes du développement intérieur distillées dans la poésie canadienne aux extraits sucrés de racines d'érable. Pour ce faire, nous vous proposons ici une sélection de poèmes garantis hors dogme. C'est écrit dessus par le castor astral dans le titre « Pour avoir vu un soir la beauté passer ». Je mangerai la terre et les racines. J'avancerai sur le ventre, l'ombrique humain. J'ai une telle faim des éléments du simple. La vie du siècle m'écrase, la ville moderne me déchire. Aujourd'hui, partout où je vais, c'est dans la beauté perdue. C'est un poème, Beauté perdue, de Daniel Bigat. J'ai vu disparaître les rivières, leurs sources et des fleuves même, rivages, quais, parcs profonds et tant de jardins subtils, allées, promenades, hameaux, villages, quartiers entiers. J'ai vu se bétonner des plaines, des collines rasées. Les voitures s'égarent sur l'ombre animale des chevaux disparus. La brutalité des hommes est énorme. Pourtant, parfois, la tendresse d'un homme seul m'éblouit encore. C'est dans Babel Bigarrure. Et puis carrément, pour aller droit au but, sans s'adresser à ses anges, Dieu en beauté. C'est un poème de Linda Maria Barros. Dieu n'a pas bien refermé la femme. Son corps est fait pour être transpercé. Les hommes trouvent quotidiennement toutes sortes de moyens de s'en retourner, de s'en extraire. Seul peut-être le dévissage de la langue des pensées est plus rude. Dans ses égarements névrotiques, même le poète dit que, parmi toutes les formes que possède l'homme, la pierre est la moins résistante. Elle se brise. C'est une chose bien connue, le ventre de la femme ne laisse pas la tristesse monter au ciel. Il recycle les acides corrosifs du souvenir dans une courte, foudroyante réconciliation avec l'éternité. Il aspire l'obscurité et le muscle couturier le trahit à tout moment. Il change de forme à la lumière d'un autre sexe. C'est pourquoi je dis que Dieu n'a pas bien refermé la femme, que son corps peut être transpercé, mais très peu, juste assez pour y voir, en pleine torsion, les dieux.
Merci Jacques Bonafé, vous continuez de nous lire cette semaine des textes en lien avec la beauté, thème du printemps des poètes.